20h30 ici à Paris, 19h30 à Kinshasa, 18h30 à Abidjan. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Afrique Soir sur RFI.
Afrique Soir, c'est l'heure. La première édition vous est présentée par Sylvie Berruy. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une, la Côte d'Ivoire, à moins de 6 mois de la présidentielle, Tidiane Thiam démissionne de la présidence du PDCI, principale formation d'opposition. Mais il devrait se faire réélire dès mercredi lors d'un congrès et extraordinaire. La question de sa nationalité est au centre de la polémique. Le renforcement de la coopération militaire et économique entre la RDC et l'Ouganda en pleine crise dans l'est du Congo et plus d'une centaine de morts et de nombreux disparus après des inondations qui ont dévasté le village de Kazaba dans l'est de la RDC. Les autorités locales dénoncent la déforestation massive de la région. Le bras de fer se poursuit entre Paris et Alger. Nouvel épisode de la crise diplomatique. L'Algérie expulse de nouveaux diplomates de son territoire. À Lomé, au Togo, la dette africaine au centre d'un sommet de l'Union africaine. Ce sera notre dossier. À Abidjan, pendant ce temps, la 12e édition de l'Africa CEO Forum. Près de 3000 participants réunis pour repenser les relations économiques entre secteurs publics et privés. Et enfin, la sélection de Case Loom de la programmation musicale de RFI. Coup de projecteur ce soir sur l'artiste camerounais Diez Bangué. Voilà pour le sommaire. En Côte d'Ivoire, après la démission de Tidiane Thiam à la tête du PDCI, son parti, qui était réuni d'urgence en bureau politique, a décidé d'organiser un congrès extraordinaire mercredi pour élire un nouveau président. Tout cela à moins de 6 mois de l'élection présidentielle à Abidjan, Binta Diagne.
Cette réunion d'urgence était présidée par le doyen d'âge des vice-présidents, Ernest Kumo Mobio. Son intérim est courte puisque le bureau politique décide d'organiser un congrès extraordinaire dans 2 jours. Principal objectif de ce congrès, élire un nouveau président. Ce congrès va se tenir de manière éclatée dans 45 sites du pays. Un appel à candidature a été lancé. Les candidats ont jusqu'à demain 18h pour déposer leur dossier. Le congrès est ouvert à tous les militants, assure le député Olivier Akoto. Mais dans les faits, sauf surprise, Tidiane Thiam part favori. Cette décision de quitter son poste intervient alors qu'un procès est toujours en cours contre lui. Une cadre du PDCI remet notamment en question la légalité de son élection à la tête du PDCI en décembre 2023, Thiam risque d'être destitué de son poste. Annoncer sa démission avant l'issue de ce procès est une manière d'atténuer l'impact de cette procédure. Puisqu'il renonce à son mandat, le juge n'a plus de raison de le déclarer illégal, estime un juriste. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Le bras de fer se poursuit entre la France et l'Algérie avec ces nouvelles expulsions de diplomates français du territoire algérien. Les autorités françaises confirment que des agents déployés temporairement à Alger ont été priés de faire leurs bagages et de quitter le pays. Elles n'en précisent pas le nombre, mais l'Algérie parle d'une 15aine d'agents. La diplomatie française prévient qu'il y aura une réponse. François Mazé.
Dans une dépêche publiée hier soir, l'APS, agence de presse officielle algérienne, évoquait pas moins de 15 agents devant assumer des fonctions diplomatiques ou consulaires, sans que ces affectations n'aient fait au préalable l'objet ni de notifications officielles, ni de demandes d'accréditation appropriées, comme l'exigent les procédures en vigueur. Paris confirme des expulsions, mais ne donne pas de chiffres. La diplomatie française en conteste la justification et estime que ces personnes détentrices de passeports diplomatiques n'avaient pas besoin de procédures particulières pour des missions de moins de 90 jours. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a promis ce matin une réponse immédiate.
C'est une décision qui est incompréhensible et qui est brutale, est injustifiée et injustifiable. Nous y répondrons de manière immédiate, de manière ferme et de manière proportionnée à l'atteinte qui est portée à nos intérêts. C'est une décision que je déplore parce qu'elle n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie ni dans l'intérêt de la France.
Mi-avril, une première passe d'armes avait eu lieu avec l'expulsion de 12 fonctionnaires français d'Algérie. La France avait répondu en renvoyant à son tour 12 agents consulaires algériens et en rappelant son ambassadeur qui se trouve toujours à Paris. Depuis, la relation entre les deux pays était totalement gelée, selon les termes employés par Jean-Noël Barrot.
François Mazé, vous écoutez Afrique Soir, 19h34 à Kinshasa.
Kinshasa,
105 FM.
Le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe, a achevé ce lundi une mission de 4 jours en Ouganda. Accompagné de plusieurs députés, il a participé à une conférence interparlementaire africaine. Mais cette mission avait aussi une dimension politique, puisque Vital Kamerhe était porteur d'un message spécial du président Tshisekedi à son homologue ougandais Yoweri Museveni, un message qui porte sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces échanges s'inscrivent dans une série de déplacements qui ont commencé en novembre et l'objectif est de renforcer la coopération militaro-économique entre les deux pays. Patient Negodi.
Alors que Kinshasa négocie avec le Rwanda et les États-Unis des accords sur la paix et le commerce, les autorités congolaises tiennent à préserver un lien solide avec Kampala. Contactés, les émissaires congolais assurent que le président ougandais n'avait pas besoin d'être rassuré. Au contraire, Yoweri Museveni a lui-même insisté sur la nécessité d'un climat apaisé dans la région, estimant que les tensions actuelles nuisent aussi aux intérêts de son pays. Selon nos informations, Museveni met l'accent non seulement sur la sécurité aux frontières, mais aussi dans les zones où l'Ouganda a des intérêts économiques. Dans ce contexte, la coopération entre la RDC et l'Ouganda se renforce et l'opération conjointe entre leurs armées, initialement centrée sur les ADF, cible désormais également la CODECO et d'autres groupes armés actifs au Nord Kivu et à Ituri. Sur le plan économique, 3 axes routiers sont en cours de construction entre les deux pays. Ils collaborent aussi à travers Punia KCC Mining, une co-entreprise lancée en 2020 entre la société congolaise Sakima et l'entreprise ougandaise Dot Service. Cette structure ambitionne de devenir un leader mondial dans l'exploitation des minerais dits 3T, étain, tungstène et tantale. Et autre dossier sensible, le projet d'exploitation du pétrole du lac Albert que Kampala souhaite davantage sécuriser.
Plus de 110 morts et un nombre indéterminé de disparus, c'est le bilan encore provisoire des inondations qui ont frappé la localité de Kasaba dans le territoire du Fizi au sud Kivu dans l'est de la RDC. Plus de 800 sinistrés après la coulée de boue qui a emporté une partie du village. Pour l'administrateur du territoire de Fizi, la déforestation est clairement en cause dans cette nouvelle catastrophe. Écoutez Sami Kalonji Badibanga, il répond à Pauline Azidi.
Ce qui nous arrive, c'est aussi notre négligence, parce que GIE a effectué plus de 2 missions d'itinérance dans la presqu'île d'Ubwari, sur tous les villages qui longent les lacs, les littorales du lac Tanganyika. Et mon constat est amer, pourquoi? Parce qu'il y avait une très forte déforestation de la faune. Et s'il y a eu affaissement, glissement de terre, c'est parce que la terre n'avait pas le soutien. Tous les arbres sont abattus pour la fabrication des braises, pour la fabrication des planches, soit coupées, abattues par la population locale, par les armées étrangères, par les groupes armés locaux. La population doit comprendre que planter un arbre, c'est protéger la vie. La population doit comprendre à reboiser les espaces verts, les longs des rivières. Ça pourra facilement nous épargner de beaucoup de catastrophes naturelles, d'incidents comme celui que nous déplorons aujourd'hui à Kasaba, pour que nous puissions prendre conscience que notre écosystème dans lequel nous vivons dépend essentiellement de l'environnement quand nous les soignons mieux.
L'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga. Près de 2 mois après sa prise de fonction, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, a présenté ses priorités aujourd'hui à Addis Abeba. Et l'enjeu est de taille pour le successeur de Moussa Faki Mahamat. Il entame son mandat dans un continent frappé par de nombreuses crises et conflits. À Addis Abeba, Marlène Panara.
La paix et la sécurité, c'est notre priorité, a indiqué d'entrée de jeu Mahmoud Ali Youssouf. Le président de la Commission de l'Union africaine a notamment partagé son inquiétude sur la situation au Soudan, où des attaques de drones ont visé ces derniers jours la capitale provisoire, Port-Soudan. Alors que les Émirats arabes unis sont accusés par Khartoum de fournir des armes au FSR, Mahmoud Ali Youssouf l'a martelé, l'Union africaine n'acceptera aucune ingérence dans les affaires intérieures du Soudan. L'ancien ministre djiboutien des Affaires étrangères s'est par ailleurs gardé de donner son avis sur ces accusations. C'est le Soudan qui a accusé les Émirats, c'est au Soudan de fournir les preuves, a-t-il déclaré. Sur le volet économique, le président de l'UE a insisté sur une mise en œuvre plus rapide de la zone de libre-échange africaine, une opportunité selon lui de faire face à l'augmentation des tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump en avril. Enfin, Mahmoud Ali Youssouf a livré sa stratégie pour réduire la dépendance financière de l'institution aux donneurs étrangers. L'UE a par exemple perçu 600 millions d'euros de la part de l'Union européenne entre 2022 et 2024 pour l'aide au maintien de la paix. Parmi les pistes évoquées par le président figure la participation du secteur privé. Marlène Panara, Addis Abeba, RFI.
Afrique Soir.
Au Togo, ouverture ce matin de la conférence de l'Union africaine sur la dette du continent. C'est une première, alors que la dette a pris des proportions alarmantes pour la plupart des pays d'Afrique. Pendant 3 jours, les représentants des pays africains vont tenter de se mettre d'accord pour enrayer la crise sur le continent, mais aussi faire entendre leur voix auprès de la communauté des bailleurs. Ezra Zikoumana.
La dette continentale atteint aujourd'hui les 60% du PIB de l'Afrique, plutôt inquiétant aux yeux de quelques 500 participants. À cette conférence de Lomé. Outre une forte croissance démographique, la population double tous les 25 ans en Afrique de l'Ouest, explique le président de la BOAD. Il y a d'autres facteurs externes qui expliquent un tel niveau d'endettement. Serge Ekwe.
La Covid a obligé les États à augmenter de manière massive leur endettement. Je peux rappeler aussi que les questions liées au climat, par exemple, sont des questions qui ont lourdement endetté nos pays. Les inondations ici, la sécheresse là. Et puis, il faut aussi se le dire, les questions sécuritaires.
Dans ces conditions, a expliqué l'hôte de ce sommet, la communauté internationale doit aider l'Afrique à se financer si elle veut que ce continent joue un rôle stabilisateur dans le monde. Le président du Conseil du Togo, Foronya Simbe.
Il est dans l'intérêt de l'Europe et même du monde entier d'aider l'Afrique à se financer. Il ne s'agit pas de charité, mais de responsabilité partagée. Financer aujourd'hui l'adaptation en Afrique, c'est éviter demain l'explosion des migrations, des crises alimentaires et des conflits climatiques. Bien sûr, le monde entier sait que l'Afrique est la victime des dérèglements provoqués ailleurs.
L'objectif de cette conférence parrainée par l'Union africaine, s'accorder sur les réformes à mettre en œuvre pour maintenir notamment la viabilité de la dette africaine en vue du développement de ce continent.
Alors l'Union africaine organise ce sommet à Lomé jusqu'à mercredi. Un objectif, on l'a dit, c'est de s'accorder sur une ligne commune pour dialoguer avec les créanciers et les institutions financières internationales. Alors on parle de la dette, mais en quoi consiste-t-elle en Afrique? Paul Lonsin-Spinelli a posé la question à l'économiste Carlos López, économiste et professeur à l'Université du Cap en Afrique du Sud.
La dette extérieure totale de l'Afrique actuellement est autour de 1150-160 milliards de dollars. C'est un poids considérable, ça représente à peu près 60% de la richesse de l'Afrique, 60% du PIB. Et effectivement, elle a augmenté énormément depuis 2008, la première crise financière internationale qui a eu un impact sur les finances africaines. Et depuis, comme nous savons, il y a eu la pandémie, la guerre de l'Ukraine, et puis maintenant, toutes les décisions qui sont prises par l'administration américaine qui affectent énormément l'évaluation de la dette africaine.
Sur la scène internationale, qui sont les principaux créanciers des pays africains?
Si on regarde un peu les nouveaux créanciers, bien sûr, on parle beaucoup de la Chine. Effectivement, elle a monté en puissance depuis une décennie et demie. Avant, les pays étaient beaucoup plus dépendants du Club de Paris, c'est-à-dire des pays occidentaux, membres normalement du groupe de l'OCDE. Mais ce qu'on regarde évoluer avec un peu d'étonnement, c'est la montée en puissance des pays du Golfe, qui commencent effectivement à être beaucoup plus sollicités et beaucoup plus disponibles pour faire des investissements dans les pays africains et indirectement contribuer à un équilibre macroéconomique qui faisait défaut parce que justement les pays de l'OCDE n'investissent pas autant et la Chine est un peu en pause.
Vous aviez commencé à en parler au tout début, mais cette guerre commerciale lancée par Donald Trump depuis son investiture fin janvier, quel impact ça peut avoir sur la dette africaine? Quelles sont les perspectives?
Vous savez, notre commerce avec les États-Unis est relativement petit. Donc, si on regarde la composition du commerce africain dans les 9%, le commerce avec les États-Unis, donc ce n'est pas beaucoup. Par contre, les États-Unis contrôlent un niveau très important d'éléments du marché financier. Et donc, c'est là où nous voyons vraiment des difficultés. À partir du moment où il y a des secousses dans le marché des capitaux et dans la régulation internationale, les pays les plus faibles, ceux qui sont plus marginaux, souffrent le premier.
Voilà l'économiste Carlos Lopez, professeur à l'Université du Cap en Afrique du Sud. Il était l'invité d'Afrique Midi. Rendez-vous à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. 20h45 ici à Paris. On va parler de football. L'arrière droit marocain Achraf Hakimi du PSG, lauréat du prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Au Maroc, la PSG Academy forme plusieurs centaines de jeunes de 4 à 18 ans, garçons et filles qui veulent suivre les traces de leur idole. C'est un reportage de Mathias Reynal.
Achraf Hakimi.
C'est de la bombe, bébé.
Achraf Hakimi, ça peut être un exemple, un idole, il est explosif.
Je m'inspire, je regarde ses matchs, voir comment il joue, c'est quoi sa dynamite et tout.
La dynamite d'Hakimi, lapsus révélateur du petit Mohamed Ziyed, toujours aussi impressionné par sa rencontre avec le défenseur parisien.
J'étais très heureux de voir mon joueur préféré marocain.
C'était au mois de novembre.
Merci pour tous les soutiens que vous donnez, l'amour que vous donnez. Dima Maghreb et Dima Paris Saint-Germain.
Des micros qui saturent, une foule de gamins surexcités. Le latéral droit du PSG en personne a inauguré cette école de foot en banlieue de Casablanca. En ce premier dimanche de mai, on s'entraîne dur, comme Hakimi. Ici, aucun superlatif n'est trop fort pour le décrire.
C'est une star, on peut dire même que c'est une icône pour le Maroc. Il a fait une très bonne saison, elle est meilleure que les saisons d'avant.
Actuellement, moi je pense que c'est le meilleur latéral droit au monde. Il apporte énormément offensivement et défensivement. Ce qu'il fait, c'est incroyable et c'est le seul joueur au monde qui est capable de faire ça.
Un joueur au sommet de son art, mais toujours aussi humble. L'épisode des CAF Awards en décembre a été vécu comme une injustice au Maroc. Achraf Hakimi, ultra favori, n'avait finalement pas décroché le titre de meilleur joueur africain de l'année.
Il est trop sous-côté, Hakimi. C'était une déception de le voir en troisième place, je crois. Il mérite la première place.
C'est la bombe.
En réalité, Achraf Hakimi faisait partie des 5 finalistes. Et pour les jeunes marocains de la PSG Academy, il faudra encore quelques trophées pour réparer le préjudice. Mathias Reynal, de retour de Darbouaza, RFI.
Afrique Soir, 18h46 à la pendule universelle. On va faire le tour d'horizon de l'actualité internationale avec vous, Romain Ouzoui.
Il était aux mains du Hamas depuis 19 mois. Eden Alexander, otage israélo-américain, a été libéré ce lundi. Des contacts avec l'administration américaine sont évoqués pour justifier une telle décision. Cela intervient alors que Donald Trump, le président, est en route pour l'Arabie Saoudite où il doit débuter une tournée au Moyen-Orient qui le conduira également aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Nombreuses réactions après l'annonce de la dissolution du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. C'est la fin de 4 décennies d'une lutte armée contre l'État turc qui a fait plus de 40 000 morts. Décision importante pour le président turc Recep Tayyip Erdogan. Salué également cette décision par la Syrie, l'Allemagne, l'Union Européenne ou encore l'ONU. Et puis en France, le retour d'un débat sensible à l'Assemblée Nationale. Celui qui concerne la fin de vie. 2 propositions de loi sont à l'étude. L'une portant sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Les échanges doivent durer 2 semaines et à l'issue de leur vote, à l'issue de ces échanges, un vote solennel est prévu. Ce sera le 27 mai prochain. Suite d'Afrique Soir, la première édition de ce lundi, Sylvie Huberhué. Nous partons à présent en Centrafrique.
Oui, on va parler de 2 villes frontalières séparées par la rivière Oubangui. Ces villes, ce sont Zongo, en RDC, située en face de la capitale centrafricaine Bangui. Créée en 1971, Zongo possède quelques établissements scolaires, mais ne dispose pas de toutes les filières. Alors de nombreux élèves et étudiants traversent chaque jour en pirogue la rivière pour étudier à Bangui. C'est un parcours du combattant et c'est un reportage de Rolf-Steph Domialeux.
Le soleil se lève sur un fond doré au bord de la rivière Oubangui. Les premières pirogues convergent déjà vers le quai. Une dizaine de personnes se bousculent pour monter dans l'une des embarcations. Zachary Bodiko, un étudiant congolais, traverse pour étudier dans une université à Bangui.
Nous nous réveillons à 5 heures pour s'organiser, mais la frontière officiellement s'ouvre à 7h30. Des fois, nous leur demandons une autorisation spéciale pour que nous traversions même à 6h, 6h30. En fait, d'arriver en tas au cours. Ça nous fait exactement 5000 francs CFA en termes de transport aller-retour.
L'un des piroguiers met le moteur en marche et le canoë avance à son rythme. La rivière Oubangui, tel un immense tapis scintillant, se dresse devant eux. Cette étudiante navigue tous les jours sur les eaux froides de l'Oubangui pour retrouver sa classe.
Je m'appelle Milka Subai Kamoya, congolaise. Avec la pirogue, le moteur, c'est 5 à 7 minutes. C'est un peu difficile. Il y a des temps où ça arrive, où on manque. Le vrai, il y a des temps aussi où ça marche.
Une fois en plein milieu de la rivière, en plus du moteur, les piroguées affrontent les vagues et le vent avec des pagaies. Le mauvais temps entraîne régulièrement le naufrage des pirogues dans cette zone. Cet instant de frayeur, Milka le vit depuis 3 ans.
S'il y a la pluie, c'est difficile de traverser. Parfois, il arrive qu'il y a la pluie et qu'on en court le matin. Donc, il n'y a pas moyen de traverser. Et ça nous arrive parfois de manquer le cours. Donc, au lieu de traverser le matin, tu es obligé de traverser aux après-midi. Genre, tu peux finir les cours et il y a la pluie encore, donc il n'y a pas moyen de rentrer.
Dans la pirogue, on rit et on murmure avec la peur au ventre. Malgré les risques, Zachary est déterminé à finir ses études.
Nous avons à chaque fois des noyades dans la rivière, mais nous ne voyons pas ça. Nous ne voyons pas tous ces risques et nous nous engageons. Voilà pourquoi nous continuons à le faire chaque jour. On est déterminé, s'il faut finir les masters, on finira les masters.
Une fois à la berge, les élèves se précipitent pour descendre et chacun utilise un autre moyen de transport pour rallier son école. Plusieurs étudiants qui ont fini leurs études avec ce système exercent aujourd'hui dans des organismes à Bangui ou en RDC. Rolf Esteve Domialeu, Bangui, RFI.
Musique. Case Loom est avec nous en studio. Bonsoir Case.
Bonsoir Sylvie.
Et ce soir, la programmation musicale des RFI va nous démontrer une nouvelle fois que la musique, c'est aussi une histoire de voyage qui décolle souvent d'un pays d'Afrique.
Et oui, tout à fait. Et ce soir, nous prenons notre envol de l'aéroport international de Douala, très exactement à 130 km de Yingi, ville où est né notre artiste du soir, Dieze Mbangé. Et pour commencer notre périple dans l'univers de l'artiste, nous vous invitons à prendre place dans notre petite salle de concert le temps d'une respiration musicale live.
Parlez-nous de ce voyage musical de Dieze Mbangé entre Douala et Marrakech.
Eh oui, Dieze pose ses bagages à Marrakech en 2017 où il rencontre le bassiste français Pierre-Paul Mayer. Ensemble, ils fondent le groupe Soul Musango et ils mettent en valeur et en musique les langues du Cameroun, comme on peut l'entendre dans...
Alors Bolaté, hein, c'est un titre extrait de l'unique album de Soul Musango qui est sorti en 2018.
Et oui, et un très très bel album qui pendant 10 titres met en avant les langues camerounaises comme le banen qu'on parle dans les régions du centre et du littoral du Cameroun. Il fait sonner ce patrimoine oral dans une soul bien calibrée. Un album qui ouvre au groupe ensuite les routes d'une série de concerts et d'un passage remarqué lors de l'édition 2018 du festival Jazz à Blanca de Casablanca au Maroc.
Alors la question c'est, est-ce que c'est cette aventure musicale qui a donné des ailes à notre baroudeur camerounais?
En effet. Il décide alors de s'envoler pour une carrière en solo. Et avec sa guitare, ses mélodies et ses envies d'ailleurs, il prend la route pour écrire ses propres chansons et faire découvrir au monde son talent. Il s'installe à Bruxelles et il séduit un large public avec son afro-pop teinté de soul, de funk et sur les nombreuses scènes qu'il foule en Belgique. On reconnaît son talent d'auteur et de compositeur, notamment dans ce titre, L'autre de toi.
Nous tessac. Ni
Alors, par son style, hein, Diez Mbangué nous rappelle un peu un univers musical proche de celui d'une légende de la musique camerounaise. Hein.
Il est vrai que Diez est très inspiré par la musique du grand Manu Dibango, mais l'ombre de Richard Bona et Blik Bassi plane sur la créativité de Diez Mbangué. Il n'hésite pas à conserver les traditions du Bikutsi et du Makossa en leur attribuant une dimension soul et pop pour un voyage en première classe musicale.
C'est une classe, hein, Case, qu'il exprime dans African Soul.
Oui, cette EP est un petit bijou aux sonorités toutes plus soul les unes que les autres, en langue banane comme on le disait, avec des titres comme Minambuti ou Alanba. Pour une exploration encore plus profonde de ses racines et de son univers musical. Alors voilà pourquoi nous vous invitons à vous saisir de l'énergie aérienne de son nouveau titre qui s'installe dans la playlist RFI.
Alors encore une jolie découverte avec ce titre de Diez Mbangué, Mané, hein, que vous pouvez retrouver dans la playlist officielle d'RFI sur notre site rfi.fr/musique et sur toutes les plateformes d'écoute musicale, Deezer, Spotify et YouTube, en tapant RFI-playlist officielle. Merci à vous, Keizlou.
Avec grand plaisir, Sylvie. Ravi de vous faire découvrir ce titre.
Le Camerounais Diez Mbangué, le coup de cœur de la programmation musicale d'RFI qui nous était présenté ce soir par Keizlou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Maël Guyot pour la réalisation de cette émission. C'est à vous, Romain.
Et merci à vous, Sylvie Berbet. On vous retrouve dans 30 minutes.
Avec
voilà,
plaisir.
Deuxième édition d'Afrique Soir. Mais d'ici là, il y aura le journal de 19h temps universel qui sera présenté par Marion Casanova. Et puis le décryptage. Cette question, est-ce que la Cisjordanie est en voie d'annexion? Et puis le grand reportage qui nous emmènera à 19h40 temps universel à Kampala, la capitale ougandaise, dans un centre de déradicalisation pour anciens combattants de l'État islamique en Afrique centrale. Bougez surtout pas.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Les problèmes de vue chez l'enfant pour un dépistage précoce.
Mercredi.
Morsure de serpent, savoir réagir en cas d'envenimation.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.